Il est 23h30 à Paris et à Abuja, 22h30 à Tiaroy et en temps universel.
Afrique Soir.
Sylvie, j'espère que vous êtes bien échauffée. J'ai l'impression que la dernière édition d'Afrique Soir est très chargée ce soir. Bonsoir Sylvie Berus.
Bonsoir Martin. Oui, particulièrement chargée. Bon repos à vous, Martin Guez. Emmanuel Macron reconnaît le massacre de Tiaroy. En 1944, l'armée française avait tué des dizaines de tirailleurs sénégalais dans ce camp militaire. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye affirme avoir reçu une lettre du président français. La visite d'État du président Bola Tinubu en France, cette première journée de la visite du président nigérian, a été marquée par la volonté de renforcer le partenariat entre les deux pays. En Namibie, la commission électorale prolonge de 2 jours le vote pour la présidentielle. Décision après les couacs logistiques et les dysfonctionnements qui ont émaillé le scrutin hier. Dans l'actualité également, vive émotion au sein du barreau au Cameroun après qu'un avocat ait été molesté par des gendarmes à Douala. La scène a été filmée et ce sera le dossier d'Afrique Soir. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en visite au Tchad. Il annonce que la France a débloqué 7 millions d'euros pour la crise humanitaire au Soudan. Et puis, nous parlerons de handball avec la suite de la CAN féminine qui se joue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et enfin, la sélection musicale toujours très attendue d'Hervé Mandina, alias DJ Fesmé. Trois jours avant les commémorations officielles, le président Emmanuel Macron reconnaît que les forces coloniales françaises ont commis un massacre à Tiaroy. Le 1er décembre 1944, dans ce camp militaire situé près de Dakar, l'armée française a tué des dizaines, peut-être des centaines de tirailleurs sénégalais. Bonsoir Magali Lagrange.
Bonsoir Sylvie.
Et c'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui le dit. Il affirme avoir reçu une lettre du président français.
Oui, on n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais j'ai reçu une lettre du président Macron, explique Bassirou Diomaye Faye. Dans ce courrier, le chef de l'État français écrit que le 1er décembre 1944, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient que soit versée l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Pour le président sénégalais, c'est un pas qui doit ouvrir la porte à une collaboration pour la manifestation de toute la vérité. Bassirou Diomaye Faye évoque la chape de plomb qu'on a régulièrement cherché à mettre sur cette histoire. Dans son courrier, Emmanuel Macron mentionne aussi la quête de vérité historique. Il importe d'établir autant que possible les causes et faits ayant mené à cette tragédie, estime-t-il. Il souhaite être tenu informé de l'avancée des travaux du comité pour le rétablissement des faits mis en place au Sénégal et appelle à poursuivre dans le temps la coopération entamée pour, je cite, écrire la réalité de l'histoire et bâtir une mémoire partagée et apaisée.
Magali Lagrange, et j'ajoute que dans cette interview accordée à la chaîne France 2 et à l'AFP, le président sénégalais s'est aussi exprimé sur la présence de bases militaires françaises au Sénégal. Environ 350 soldats français y sont stationnés. La souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires, a déclaré le président sénégalais. À la question de savoir si les soldats français devaient partir, il a répondu qu'il n'y avait pas encore de délai. Si cela doit être fait, ce sera dit aux autorités françaises suivant le calendrier établi. Fin de citation. Tapis rouge pour le président du Nigeria. Bola Tinubu a été reçu à l'Élysée au premier jour de sa visite de 72 heures en France, la première d'un président du Nigeria depuis 24 ans. Cette visite était largement centrée sur l'économie avec pour objectif de renouveler et d'élargir le partenariat entre la France et l'une des plus grandes économies d'Afrique. Lisa Fabian.
L'orchestre de la garde nationale et le passage en revue des troupes dans la cour des Invalides pour accueillir le président Bola Ahmed Tinubu à Paris. Les honneurs d'une visite d'État qui constitue une aubaine pour le président nigérian au moment où son pays fait face à une très grave crise économique.
Peu importe combien vous investissez dans d'autres pays africains, il est essentiel de considérer le Nigeria comme un partenaire sérieux pour atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, nous voulons assurer la communauté des investisseurs que le Nigeria est ouvert aux affaires.
Pour l'instant, pas d'annonce concrète, mais des promesses d'investissement dans de nombreux domaines de la part du président Emmanuel Macron.
La France continuera de s'investir à travers aussi son agence française de développement. Plus de 330 millions d'euros dès 2025 en supplément en faveur des projets justement de sécurité alimentaire, de mobilité urbaine, d'enseignement supérieur, d'agriculture, de formation professionnelle et de changement climatique. Aux investissements du groupe AFD viendront s'ajouter de nouveaux investissements via aussi des prêts du Trésor français.
Le chef de l'État français a aussi apporté son soutien aux réformes économiques menées par Bola Tinubu depuis son élection. Celles-ci sont pourtant très critiqué au Nigeria.
Au Liberia, c'est une figure très controversée de l'histoire du pays qui vient de mourir et les réactions sont mitigées après la disparition de Prince Johnson à l'âge de 72 ans, car Prince Johnson était réputé pour sa cruauté durant la première guerre civile du Liberia, mais c'était aussi l'un des politiciens les plus influents, Sidi Yansané.
C'est en 90 que se forge la féroce réputation de Prince Yemi Johnson. Cette année, le chef de guerre et ses miliciens capturent Samuel Doe, président d'alors violent et cruel. Sous l'œil des caméras, Prince sirote une bière tout en interrogeant le dirigeant Doe, déshabillé, à genoux, suppliant pour sa vie avant d'être mutilé, exécuté et son cadavre exhibé dans les rues de Monrovia. Ces images choquantes poursuivront Johnson jusqu'à sa mort, malgré sa reconversion comme pasteur évangélique, sa transition politique et son élection en 2005 comme sénateur du comté de Nimba, le politologue Abdullah Kiatamba.
C'était sans aucun doute l'homme politique le plus influent du Liberia. Il a littéralement fait élire George Weah puis Joseph Boakai en soutenant leur candidature à la présidence. Mais beaucoup estiment qu'il avait suffisamment vécu et qu'il était temps de faire face à la justice pour ses crimes de guerre civile. On a pris l'habitude de dire « un chef de guerre est devenu sénateur », puis « un chef de guerre est devenu faiseur de roi ». Donc dans l'esprit de nombreux Libériens, Prince Johnson reste avant tout un chef de guerre.
Le poids politique de Prince Johnson lui a permis de jouir d'une grande impunité, lui qui n'a jamais rien regretté et qui s'est toujours opposé à la création d'un tribunal pour juger les crimes des conflits successifs entre 89 et 2003.
Et les causes de la mort soudaine de Prince Johnson n'ont toujours pas été communiquées. Les guerres civiles au Libéria entre 1989 et 2003 ont fait au moins 250 000 morts. Dans l'actualité également, l'Algérie, où l'instruction judiciaire contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis 12 jours, se poursuit. Les autorités algériennes n'ont toujours pas communiqué sur le sujet, alors que mardi, son avocat en France, maître François Ziemeret, avait annoncé le placement sous mandat de dépôt de l'écrivain, ce que confirment des sources à Alger. Faisal Metaoui.
Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre 2024, est à la prison de Coléa, à l'ouest d'Alger, depuis au moins 6 jours. Selon des sources informées, l'écrivain français d'origine algérienne a été mis sous mandat de dépôt sur décision du juge d'instruction du tribunal de Dalbaïda à l'est de la capitale après une longue audition. Les mêmes sources indiquent que Sansal est poursuivi sur la base de l'article 87 bis du code pénal pour, entre autres, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays et complot contre la sûreté de l'État. Des accusations qualifiées de lourdes par la presse algérienne qui a indiqué que la section chargée des crimes terroristes et du crime organisé du tribunal d'Alger pourrait suivre le dossier de Boualem Sansal. Le bâtonnat d'Alger aurait chargé des avocats pour accompagner l'écrivain lors d'une instruction qui risque d'être longue. La défense aurait introduit un appel devant la chambre d'accusation contre la décision de placer Sansal en détention provisoire. Habituellement, le parquet d'Alger communique sur ce genre d'affaires considérées comme sensibles. Le silence actuel serait motivé par le secret de l'instruction. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
RFI, vous écoutez Afrique Soir, 22h38 en temps universel. En Namibie, le vote pour les présidentielles et législatives aurait dû s'achever hier soir, mais les Namibiens vont finalement continuer à voter jusqu'à samedi, puisqu'en raison d'une très forte participation et de nombreux dysfonctionnements dans les bureaux, avec un vote qui s'est poursuivi hier jusqu'au bout de la nuit, la commission électorale a décidé de prolonger le scrutin de 2 jours. Valentin Hugues.
Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote vote, annonce la commission, parce que cette élection, qualifiée de la plus disputée de l'histoire du pays, avec le parti historique SWAPO sur la sellette, a surtout viré au fil d'attente interminable, manque de bulletins dans certains bureaux, matériel informatique qui dysfonctionne, résultat des citoyens qui font le pied de grue toute la journée devant les bureaux de vote, qui parfois doivent patienter plus de 12 heures dans une chaleur étouffante, ou qui n'ont tout simplement pas réussi à accéder aux urnes. Les partis politiques en lice se sont rapidement indignés d'une telle situation. Réponse de la commission, prolonger le scrutin. Mais pour certains partis d'opposition, ce vote devrait tout simplement être annulé. Le processus électoral devrait recommencer à zéro. Continuant de croire que le vote est délibérément perturbé par la commission électorale pour permettre à la SWAPO de rester au pouvoir. Finalement, la commission a préféré l'option d'étendre la période du vote encore 2 jours dans une trentaine de bureaux, notamment en livrant de nouvelles piles de bulletins pour permettre à l'ensemble des 1,4 million d'inscrits d'accomplir leur acte démocratique. Reste que l'opposition pourrait ne pas reconnaître l'issue du scrutin. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Des pluies diluviennes dans l'est de l'Ouganda ont provoqué un glissement de terrain. On dénombre au moins 15 morts et plus d'une centaine de personnes portées disparues. Le gouvernement a émis une alerte catastrophe. Les routes impraticables compliquent les opérations de secours. Vous écoutez RFI, les 22h passées de 39 minutes en temps universel et 23h40 à Douala.
Douala, 97.8 FM.
L'indignation des avocats au Cameroun. Hier, l'un des leurs, Richard Tamfou, a été molesté par des gendarmes à Douala, la capitale économique. Cette scène a été filmée par des témoins. L'avocat était en train d'assister l'un de ses clients lorsqu'il a été agressé. Amélie Tulé.
Un client qui venait de recevoir une convocation de la gendarmerie. Convocation ne signifie pas interpellation. Pourtant, selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun et l'organisation de défense des droits humains Mandela Center, des gendarmes lui intiment l'ordre de les suivre. Le client de Richard Tamfou l'appelle donc. L'avocat refuse de le laisser partir avec les gendarmes puisqu'il n'y a ni mandat d'arrêt ni mandat d'amener. Les gendarmes forcent alors Richard Tamfou à monter à l'arrière d'un pick-up et sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, un homme en treillis lui marche littéralement dessus. Réaction indignée d'acteurs politiques et d'organisations de la société civile au Cameroun, l'ONG Mandela Center dénonce, je cite, un énième usage excessif de la force et rappelle que le Cameroun vient de passer devant le Comité des Nations Unies contre la torture à Genève, en Suisse. Dans ses recommandations finales, le comité onusien exhorte d'ailleurs Yaoundé à amender le code pénal pour que les supérieurs soient tenus responsables quand des agents des forces de l'ordre commettent actes de torture et mauvais traitements.
Alors cette scène a été filmée, des images choquantes selon l'avocat anglophone Eric Mbamba. Il est bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Il est l'invité d'Afrique Soir. Il répond à Amélie Tulé.
Oh my God, they were smashing him.
Oh mon Dieu, il le piétinait comme s'il était un serpent. Richard Tamfou n'est pas un cas isolé, on peut lister les cas similaires. Mais ce que je dis aux avocats, c'est que la brutalité policière et des gendarmes ne nous intimidera pas. Nous resterons déterminés à défendre les droits des citoyens. La police doit respecter les droits des citoyens, ce n'est pas une faveur, c'est un droit constitutionnel, un droit inaliénable.
It is a constitutional right. It is an inalienable right.
Qu'est-ce que vous attendez des autorités du Cameroun ?
Nous le répétons, comme nous l'avons dit hier, comme nous le dirons demain. Le barreau exprime sa volonté de collaboration avec les autorités. Que cela ne soit pas pris ou traduit comme de la peur. Que cela ne soit pas pris pour de la naïveté. Le barreau a le devoir de collaborer avec les autorités en place pour une meilleure justice. Mais si les autorités pensent que le rôle de l'avocat est superflu, alors qu'elles suppriment les avocats du système judiciaire.
Let it be scrapped off. Comment interprétez-vous ce recours à la violence ?
It is cruel, it is uncivilized.
C'est cruel, c'est incivil, c'est injustifié. Je ne comprends pas à quoi ces agents pensent quand ils montrent cette image du Cameroun. Ils montent sur le corps des gens ? Et si cela peut être fait à un avocat, dans la rue, je pleure pour la justice de ce pays. Je me lamente pour la protection des droits dans notre pays. Mais comme je l'ai dit, nous, les avocats, sommes la voix des sans-voix. Nous n'allons pas laisser passer cela. Trop C'est trop. Richard Tamfou n'était même pas l'objet de la convocation. Il était juste un avocat qui défendait son client comme le code de procédure pénale le prévoit. Si vous devez arrêter quelqu'un, vous avez l'obligation de lui dire qu'il peut appeler ses proches, qu'il doit appeler son avocat et informer son avocat de l'endroit où il est emmené. C'est la loi. Nous devons veiller à ce que certains de ces agents trop zélés soient sanctionnés. Nous y veillerons.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, maître Eric Mbamba, avec Amélie Tullet. La France a annoncé aujourd'hui avoir débloqué 7 millions d'euros pour la crise humanitaire au Soudan. Une annonce faite ce matin par Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui est en visite au Tchad depuis hier soir. Et ce matin, il s'est rendu à Adré, une ville frontalière avec le Soudan, où se trouve un camp de réfugiés soudanais. Il est venu constater l'ampleur des besoins humanitaires. Alexandra Bonjon.
Adré, c'est plus de 240 000 réfugiés soudanais qui vivent sous des bâches à moins de 2 km de la frontière. Chaque jour, entre 150 et 200 personnes supplémentaires y trouvent refuge. Les besoins sont énormes, nourriture, eau, soins médicaux, notamment les enfants qui, pour certains, arrivent en état de malnutrition et de déshydratation avancée. Jamais je n'oublierai les visages et les regards croisés ici à Adré, a confié le ministre français des Affaires étrangères, après avoir sillonné le camp en présence des différents acteurs. Acteur humanitaire, Jean-Noël Barrot, qui a exhorté les belligérants à cesser de jeter de l'huile sur le feu, sans citer précisément de pays. Les Émirats arabes unis sont accusés par les experts des Nations unies de fournir des armes aux forces de soutien rapide du général Hemeti en les faisant transiter par la frontière tchadienne. La guerre elle-même, c'est avant tout la responsabilité des belligérants, a de son côté indiqué le ministre tchadien des Affaires étrangères, aux côtés de son homologue français. La guerre au Soudan menace le Tchad, parce que les combats les plus violents ont lieu à nos frontières, ajoutant que les deux pays partagent plus de 1084 kilomètres de frontières. Les généraux soudanais portent l'entière responsabilité de cette guerre, a-t-il insisté, tout en précisant que dans cette guerre, le Tchad garde sa stricte neutralité.
22h45 à la pendule universelle, vous écoutez Afrique Soir. Dans quelques instants, nous parlerons de sport et puis bien sûr Afrique Écho. 23h46, on va enchaîner avec la CAN de handball. Ça se passe à Kinshasa, deuxième victoire en deux matchs aujourd'hui pour le Sénégal. Après avoir étrié le Kenya hier, les Lions se sont facilement débarrassés du Cap-Vert. Modeste équipe sur le score de 37-20. Pas de quoi bouder son plaisir avant d'affronter des adversaires de calibre supérieur. C'est ce qu'a confié l'arrière sénégalaise Doungou Camara à Olga Massangou.
Déjà, c'est l'état d'esprit. On a vraiment l'envie de faire bien à chaque match contre chaque équipe. Il y en a beaucoup qui disent oui, voilà, on a joué que des petites équipes depuis le départ, mais bon, ça reste des matchs de travail. Ils nous mettent aussi en difficulté. Sur la première mi-temps, on a eu un peu de mal à dérouler, et c'est sur la deuxième mi-temps qu'on a pu rectifier nos erreurs et aller de l'avant. Une victoire, ça vaut toujours plus qu'une défaite dans la tête, dans l'état d'esprit, dans la vie de groupe, tout simplement. Donc, demain ou après-demain, je pense que ça va être l'Égypte. Ça va être un plus gros morceau, je pense. Voilà, c'est des collègues à moi avec qui j'ai joué durant 2 ans. Et on verra ce que ça va donner.
Voilà, le Sénégal, 4e de la dernière CAN, c'était il y a 2 ans. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h47 ici, en temps universel. Le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France, selon le ministère des Tchadiens des Affaires étrangères. Le Proche-Orient, Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement de violation de la trêve au Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou brandit la menace d'une guerre intensive en cas de violation de cessez-le-feu entré en vigueur la veille et déjà mise à l'épreuve. Enfin, la Russie lance une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Ses frappes nocturnes ont plongé dans le noir au moins 1 million d'Ukrainiens. Et puis en Espagne, un mois après les terribles inondations qui ont frappé la région de Valence, le retour à une vie normale n'est toujours pas possible pour la plupart des habitants de la région. Au Sénégal, la deuxième édition du Salon international du livre jeunesse s'est tenue à la mi-novembre. Des éditeurs sénégalais et de tout le continent sont venus présenter leurs ouvrages à un public de familles et de scolaires à Dakar, car ce secteur est en plein développement, mais les petites structures qui se lancent sont confrontées à des coûts de production. C'est Afrique Éco avec Juliette Dubois.
Donner l'amour de la lecture aux enfants, c'est l'un des objectifs du Salon du Livre Jeunesse. Et les goûts des petits Dakarois ce jour-là sont variés.
Quel genre de livre t'aimes bien ?
Les livres romantiques.
Les bandes dessinées.
Les histoires de Dakar.
Alpha Diallo de la maison d'édition sénégalaise Les Classiques de la Teranga observe le marché depuis plusieurs décennies.
On a beaucoup d'éditeurs, surtout des gens qui sont arrivés récemment dans le milieu de l'édition, qui éditent surtout dans la jeunesse.
Quel genre d'ouvrage fonctionne bien, se vend le mieux ?
Souvent les contes. Également où on parle des histoires africaines surtout.
Ariel Atchandi et sa cousine Wilfrida l'ont bien compris. Tout sourire devant leur stand, ces deux étudiantes gabonaises passionnées auto-éditent des beaux albums jeunesse de légendes africaines depuis 2 ans. Un projet familial.
Bon, ma grand-mère écrit, ma tante illustre et moi je fais le commercial.
Ariel fait imprimer ses livres en France car elle n'a pas trouvé la qualité d'impression qu'elle recherchait à Libreville. Le transport représente un coût très important, 150 000 francs CFA pour faire venir 30 livres. Et cela se répercute sur le prix des albums qu'elle vend 15 000 francs CFA pièce.
Vous allez vous rendre compte que nos prix sont les plus chers parce que nous sommes auto-éditeurs, on n'a pas cette opulence-là d'avoir des partenaires, d'avoir de l'impression directement dans l'édition, etc.
Ariel et Wilfrida ont réussi à placer leurs 4 ouvrages dans les librairies de Libreville. Le salon leur permet de prendre des contacts de nouveaux partenaires sur le continent. Pour d'autres maisons d'édition comme les Classiques de la Teranga, le gros de la clientèle reste les écoles.
Vous savez, beaucoup d'écoles ont des bibliothèques. Vous voyez, dans des écoles où ils ont une heure de bibliothèque ou 2 heures de bibliothèque par semaine pour les enfants. C'est eux qui achètent vraiment beaucoup.
Derrière le Salon du Livre Jeunesse, qui en est à sa 2e édition, il y a Alassane Cissé qui dirige la maison Baobab Édition. Ce rendez-vous au cœur de la capitale est l'occasion pour lui de faire un plaidoyer pour le secteur.
Le marché doit être aussi alimenté, soutenu par l'État du Sénégal, par les États africains, par l'Union africaine, pour qu'il y ait plus de livres de jeunesse et pour enfants, pour que les enfants et les jeunes se cultivent, pour que les enfants et les jeunes voyagent à travers le livre.
Un fonds d'aide au secteur de l'édition existe au Sénégal, ce qui permet à certaines grandes maisons d'édition de proposer des prix abordables à partir de 1500 francs CFA le livre. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Avant de parler et d'écouter de la musique, surtout on va parler de danse, car Dorothée Munyaneza, qui est britannico-rwandaise, et Idio Chichava, mozambicain, viennent de recevoir le prestigieux prix européen de la danse, Salavisa, un prix créé en 2023 et destiné à des jeunes artistes encore peu connus. Muriel Malouf.
Ce sont deux artistes au parcours assez différent. Idio Chichava, après une carrière artistique réussie en France, est retourné chez lui au Mozambique. Lui qui a débuté dans un groupe de danse traditionnelle pour intégrer ensuite des compagnies contemporaines, est aujourd'hui à la tête d'un festival de danse à Maputo et très investi dans la transmission. Il donne des cours gratuits de danse et présente des spectacles dans l'espace public où la danse contemporaine se nourrit des mouvements et rituels traditionnels. Dorothée Munyaneza, elle, a quitté le Rwanda en 1994. Installée en Angleterre avec sa famille, elle a étudié la musique et les sciences sociales avant de s'établir en France. En 2013, elle fonde sa compagnie Kadidi et crée sa première chorégraphie Samedi détente, où elle nous transporte dans l'horreur de l'été 1994 au Rwanda. Et actuellement, elle est à l'affiche du Festival d'automne à Paris avec Inconditionnel, une adaptation d'un texte de Kate Tempest où l'on retrouve ses sujets de prédilection, la décolonisation et la question du genre.
Et vous l'avez sans doute reconnu, c'est le générique de l'ambianceur d'Afrique Soir, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, avec nous ce jeudi 28 novembre pour son rendez-vous musical. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie, on a mis la petite laine aujourd'hui.
Soyez le bienvenu, ça s'est rafraîchi. En attendant de découvrir dans quelques instants le titre rétro du jeudi, c'est parti pour les dernières sorties afro-urbaines. Et c'est avec la chanteuse nigériane Niniola que nous commençons.
Oui, comme je vous l'ai promis mardi, sans perdre de temps, on va écouter le titre Paper Dem, qui est le premier extrait de l'album Press Play de Niniola dans les bacs depuis le 13 septembre dernier. Son premier projet complet depuis quand même 4 ans déjà. Avec son rythme Amapiano, Paper Dem est fait pour monter la température. Alors on y va. What is the reason? You are my reason. And I think you know. Day by day, I'm thinking God for you. There's nothing I want to do. To keep this fire burning cold. It's all because of you. I'm knocking at your door. Please answer, I told you.
algérien, c'est une mine d'or, hein. Il regorge de pépites musicales. Après ce début très piquant avec Niñola, on va baisser la température un petit peu à présent avec le malien Sidiki Diabaté et sa chanson Sunjata. C'est extrait de son double album Coral Over.
Oui, Sidiki Diabaté l'a tellement annoncé qu'on ne l'attendait plus, surtout que sa sortie a été maintes fois reportée. Comptez 28 titres au crédit de l'album avec les participations de Que Black, Jungleline, Neige, Black M, Distinct, Wally, Sec et Sans Regretter Papa, bien sûr Toumani Diabaté. J'ai choisi le titre Sunjata dans lequel Sidiki Diabaté met en avant ses talents de joueur de kora.
Simbombe jatale wa nare wa ga mane ka me givale wa sumare mane manda
quel instrument majestueux hein, la kora. Et place à présent la traditionnelle séquence rétro du jeudi, retour en l'an 83, oula, il y a 10 000 ans, avec l'artiste béninois Nell Oliver.
Alors j'ai fait une coquille parce que c'est en 93,
ah bah oui,
Nell
bravo.
Oliver qui a rendu hommage à Nelson Mandela en 93, donc avec le titre Upheaval contre l'apartheid. L'artiste est de ceux qui ont bien connu l'icône mondiale sud-africaine, et grâce à cette chanson qui défend la liberté, le natif de Porto Novo a reçu plusieurs distinctions, notamment un trophée prestigieux pour la paix, presque le prix Nobel. Je suis sûr que nos auditeurs se souviennent avec émotion de ce titre.
À Madiba, Nelson Mandela. Et ça passe vite, hein, c'est déjà presque l'heure de conclure, Hervé, et c'est la chanteuse camerounaise Sabrina qui s'y colle avec Simplicity.
Oui, librement inspiré de l'auteur original de cette chanson, j'ai nommé la légende Prince Nico Mbarga. D'ailleurs, c'est sa voix qu'en entendant le refrain que Sabrina a eu l'ingénieuse idée de garder. Moi, j'aime bien mélanger les genres, Sylvie, vous le savez, j'ai donc appelé ce style Makossa Piano. Bon, Simplicity, c'est du Makossa et de l'Amapiano. Et c'est signé Sabrina from Cameroon, c'est le continent. Allez, on monte le son.
Hello, how far? Sun don't shine, not to wake up from bed. Rough eyes, stretch body, shake off the sleep away from my head. Petit déj au camel, c'est nos stress. Y'a réchauffé dans un ré et en gel. Je suis continental, père. Bien sûr que les Wanda chez nous, c'est la guerre. My way getting money dans l'âme. Now my diesel, I just a brag. Je commande comme si c'est moi qui paye, moi quoi. Les deux volets, je go now. Dans cette vie, faut faire à ton cap. Tu n'as pas et c'est toi qui l'as. My way getting do go des coffres. Just clap if you carry you go abroad. Trust what you feel do.
Et c'est en toute simplicité que s'achève votre rendez-vous, mon cher Vémandina, alias DJ Facemaker. Une sélection, le rappel, hein, disponible sur RFI Musique.
Oui, vous pouvez le vérifier à tout moment sur RFI.fr dorénavant, c'est le fil musique. Allez, je vous laisse, ma Sylvie, j'ai du repassage à terminer avant le 1er décembre.
Bon repassage. Oui, il se passe plein de choses hein, dans Afrique Soir. On repasse aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec Simplicity de Sabrina. Merci à Quentin Moulin, à la réalisation, mixage de cette émission. À toute l'équipe d'Afrique Soir, restez à l'écoute. L'info revient dans quelques secondes avec Diane Berger qui est déjà en place.